Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Bernard de Cotigny.
La prière du pape pour deux prêtres italiens et une religieuse canadienne enlevée au Cameroun. On pense à la piste Boko Haram. François, qui recevait ce samedi la présidente du Liberia, on se félicite des pas accomplis vers la démocratie dans le pays et la réconciliation. Ce dimanche, le pape se rendra dans une paroisse de la périphérie de Rome. La sixième visite du genre, on confirme par ailleurs deux déplacements du pape dans des provinces italiennes, en Calabre et dans le Molise. Notre invité sera ensuite le père Michael Pace, curé de la paroisse Saint-Bénédicte à Toronto, au Canada. Il nous expliquera comment communiquer et aider les jeunes venant de différents horizons, le Canada étant un pays multiculturel. Et comme tous les samedis, le livre pour Dieu de sœur Catherine Aubin ainsi que le commentaire de l'évangile de ce dimanche, l'évangile de la résurrection de Lazare. Le pape a fait savoir qu'il priait donc pour les deux prêtres italiens et la religieuse canadienne enlevés dans la nuit de vendredi à samedi dans l'extrême nord du Cameroun, où un prêtre et une famille française avaient été kidnappés et relâchés en 2013 par le groupe islamiste armé nigérian Boko Haram. Selon le ministère italien des Affaires étrangères, les deux prêtres, Gianpaolo Marta et Gian Antonio Allegri, sont originaires de Vicence, dans le nord de l'Italie. Les religieux ont été enlevés par des hommes armés dans leur paroisse de Cher, à une vingtaine de kilomètres de Maroua, à 800 km au nord de Yaoundé, la capitale de la région de l'extrême nord. L'enlèvement des deux prêtres et de la religieuse n'a pas été revendiqué, mais on pense au groupe islamiste nigérian Boko Haram, très actif dans cette zone frontalière. Boko Haram qui avait revendiqué les enlèvements en 2013 dans cette même région du prêtre français Georges Vandenbosch et de la famille Moulin-Fournier qui avait ensuite été relâchée. Et au Vatican, on s'est réjoui ce samedi matin des pas positifs accomplis par le Liberia vers un renforcement des structures démocratiques du pays. On a reconnu par ailleurs l'engagement de l'Église en faveur de la paix et de la réconciliation nationale, tout comme son importante contribution sociale et éducative. Ce sont les points contenus dans le communiqué publié à l'issue de l'audience accordée par le pape François à la présidente libérienne Hélène Johnson-Sirleaf. Lors de cette rencontre, on a aussi discuté de l'actualité internationale avec une attention particulière aux zones de conflit. La première femme élue à la tête d'un État africain et prix Nobel de la paix en 2011 a aussi rencontré le secrétaire d'État, le cardinal Parolin, ainsi que Mgr Mamberti, secrétaire pour les relations avec les États. Dans un entretien accordé à Radio Vatican avant cette rencontre, Mme Sirleaf avait affirmé que les interventions du pape sur la question de la pauvreté étaient puissantes. « Les mots du Saint-Père ont un fort écho chez moi. Son exemple est très inspirant », a-t-elle déclaré. « J'emmènerai avec moi chacun de ces mots pour m'aider à m'inspirer à faire plus encore contre la pauvreté. » Je vous le disais dans le sommaire de ce magazine, le pape François se rendra dans l'après-midi de dimanche dans le quartier populaire de la Maliana, au sud du centre historique de Rome. Sa visite à la paroisse San Gregorio Magno sera la sixième dans une paroisse de la capitale italienne, Antonino Gallofaro. Et le pape se rendra deux reprises en visite en Italie, en juin et en juillet prochain. D'abord dans le diocèse de Cassano a Lione, en Calabre, dans le sud du pays. Cette visite pastorale aura lieu le 21 juin. La Calabre, terre de 'Ndrangheta, la mafia de la région. La mafia qui est l'une des préoccupations majeures du pape. Ainsi, il y a peu, François participait, souvenez-vous, à une veillée de prière à Rome en mémoire des victimes italiennes de la mafia. Et le 25 mars, il chargeait un évêque italien connu pour ses prises de position contre la mafia calabraise d'écrire les méditations du chemin de croix du prochain Vendredi Saint au Colisée. Il s'agit de Mgr Giancarlo Maria Bregantini, 65 ans, archevêque de Campobasso Boiano, au centre de l'Italie. Le second déplacement, deux semaines plus tard, le 5 juillet, le portera justement dans ce diocèse, donc celui de Campobasso et d'Isernia, dans le Molise, dans le centre du pays. Ces visites du pape François dans deux régions italiennes feront suite au déplacement à Lampedusa, Cagliari et Assise. Et retournons au Vatican, où le pape a reçu également ce samedi matin l'Association nationale des communes italiennes, l'occasion pour François de dresser le portrait du maire idéal. Le maire doit se trouver au milieu des gens, a déclaré le pape. On ne comprendrait pas qu'il n'y soit pas. Et le pape d'ajouter, un maire doit être un médiateur et non un intermédiaire qui profite des situations. Un médiateur qui cherche l'unité de son peuple, son bien-être, en cherchant des solutions à tous les problèmes. Et si cette tâche est certes harassante, elle procure des satisfactions. Le pape a alors pris l'image du Christ au milieu de la foule, pressé de toutes parts. Il n'était pas maire, mais l'image est bien celle d'un homme au milieu de la foule, répondant aux besoins des gens. Le pape François, qui a transmis par ailleurs ses meilleurs vœux et sa solidarité à Marignas Ephrem Karim, élu le 31 mars nouveau patriarche syriaque orthodoxe d'Antioche et de tout l'Orient, « J'espère et je prie pour que notre amitié et notre dialogue soient encore plus grands et profonds », a souhaité le pape au patriarche dans un message rendu public ce vendredi. Marignas Ephrem Karim était jusqu'à présent évêque de l'église syriaque orthodoxe aux États-Unis. Élu par le Saint-Synode au monastère Saint-Jacques-Barabé au Liban, il succède au patriarche Ignace Zaka Ier Ivas, décédé le 21 mars dernier à l'âge de 81 ans. Témoin de la radicalité évangélique, c'est le thème qu'abordent les 220 membres de la famille salésienne qui sont réunis à Rome depuis le 3 mars pour le 27e chapitre général des Salésiens qui se terminera le 12 avril. Lors de ce chapitre général, le père Angel Fernandez Artim a été élu le 25 mars nouveau recteur majeur et 10e successeur de Don Bosco. Il est espagnol et était jusqu'ici provincial d'Argentine du Sud. Ils ont été reçus par le pape François le 31 mars. Son discours était en grande partie, rappelons-le, consacré aux attentes des jeunes et aux défis qu'ils doivent relever. Il leur a rappelé l'importance de la formation des prêtres et des éducateurs salésiens. Le père Michael Pache, curé de la paroisse Saint-Bénédicte à Toronto, au Canada, nous explique à présent comment communiquer justement à aider les jeunes venant de différents horizons. Rappelons que le Canada est un pays multiculturel.
Il faut avoir une sensibilité très ouverte à toutes sortes de tendances culturelles auxquelles on n'est pas peut-être tout de suite au courant, mais que ça rentre dans la façon de dire ce qu'on dit puis de faire ce qu'on fait pour tout le monde se sent accueilli chez eux, chez elles.
Ce ne sont pas forcément toujours des catholiques ou des chrétiens. Il y a sans doute des musulmans, des juifs et d'autres religions. Comment s'adresse-t-on à ces personnes qui culturellement, religieusement sont différentes ?
Oui, donc en paroisse, c'est sûr qu'on a quoi faire, surtout avec du monde qui est catholique. Mais c'est vrai aussi que parfois, quand on prépare pour le mariage, par exemple, c'est un couple mixte. Ou dans les familles des enfants qui fréquentent nos écoles, il y a un parent qui est catholique, ou au moins par nom, puis l'autre qui ne l'est pas. Oui, on offre ce qu'on peut dans le respect de l'autre. Et il faut proposer ce qui est le projet, la vision nôtre, mais toujours, comme je disais, en reconnaissant que l'autre ne partage pas nécessairement ce qu'on dit et on laisse toujours à eux la liberté de s'impliquer aux mesures où ils se sentent capables. C'est pas rare qu'on aura dans les réunions pour les parents, par exemple, des non-catholiques. Ils participent parce qu'ils sentent que dans leur choix de faire éduquer leurs enfants dans la foi catholique, ça fait partie aussi de leur devoir, si on veut, comme parents auprès des jeunes.
Est-ce que c'est une richesse, justement, le fait d'avoir un public aussi diversifié dans un pays où la pratique religieuse tend à diminuer, et principalement la pratique catholique?
Oui, ça que m'étonne, c'est très riche en tant que curé, voir la spiritualité, la dévotion de personnes provenant de d'autres parties du monde. Et c'est très enrichissant. Quelque chose qui m'inquiète parfois, par ailleurs, c'est quand on fréquente, par exemple, des activités de pastorale jeunesse. J'ai vu ça à Toronto, je le vois aussi à Montréal. D'un côté, c'est très, très encourageant et beau de voir le multi-ethnicité des participants. Mais l'autre bord de la même médaille, c'est qu'on ne voit pas, par exemple, les jeunes d'une plus longue histoire comme canadienne. Donc, ceux qui sont canadiens ne sont pas là. Tandis que ceux qui sont des nouveaux arrivés ou la première génération ont encore plus de tendance à participer. Donc, la question de la perte de la pratique de la foi en Occident, c'est toujours devant nous. Donc, la richesse, c'est qu'on peut, dans une paroisse tellement mixte comme la mienne, où je suis curé, c'est très riche de voir voir un qui est peut-être moins fort dans la foi s'enrichir de la foi plus fervente de notre.
Comment vous faites pour essayer justement de faire revenir ces Canadiens qui se sont éloignés de l'Église?
Je ne dis pas qu'il y a un pastoral uniquement pensé pour les Canadiens de longue date. C'est plutôt une façon de créer la communauté, de faire vivre la liturgie d'une façon belle, où tout le monde peut se trouver qu'ils veulent participer. C'est une sensibilité à avoir des programmes sociaux qui sont ouverts à tout le monde. Donc, on ne différencie pas entre ceux qui sont Canadiens pour des années et ceux qui ne le sont pas. C'est plutôt de créer une communauté accueillante pour tous, où chacun peut se trouver chez eux.
Et retrouvons sans plus tarder notre bien-aimée sœur Catherine Aubin, le livre pour Dieu de cette semaine et le récit d'une expérience et d'une grande épreuve. Catherine Aubin a interrogé Cécile Paris, auteur d'un livre dont le titre est « Orphelin d'un enfant ». Dans cet ouvrage, Cécile Paris nous transmet la manière dont elle a vécu la mort de son fils, Vincent, à l'âge de 30 ans. Elle a fait l'expérience au milieu des larmes et des souffrances que ce qui comptait le plus désormais pour elle dans sa vie, c'était l'amour de Dieu pour elle et pour les autres. Écoutons-la.
Le livre pour Dieu cette semaine est le récit d'une expérience et d'une épreuve. Cécile Paris a raconté dans son livre « Orphelin d'un enfant » ce qu'elle a vécu et ce qu'elle désire nous transmettre.
La mort d'un enfant, je pense que c'est vraiment la seule chose qu'on ne prévoit pas le jour où on met un enfant au monde. On prévoit la vie, on prévoit que l'enfant d'ailleurs aura des enfants. Moi, le mien avait choisi de ne pas en avoir puisqu'il était religieux. J'avais tout prévu. Et la seule chose que je n'avais pas prévue, c'est qu'il mourrait. J'ai vu s'ouvrir sous moi un gouffre. Et après la mort de Vincent, j'ai vraiment cru que mourir, ce serait sans doute la chose la plus simple qui pouvait m'arriver. Et ce que je veux dire maintenant à des parents, parce que je pense que tous les parents n'ont qu'un rêve quand ils perdent un enfant, c'est mourir à leur tour. Je veux leur dire qu'il faut qu'ils vivent, et il faut qu'ils vivent bien. Il faut qu'ils transmettent en eux, justement, tout cet amour qu'ils ont eu, que leur enfant a donné. Et il faut, quand ils ont la foi, qu'ils puissent être, justement, des transmetteurs de foi.
Vous avez plusieurs fois indiqué cette phrase que vous avez trouvée chez votre fils et que vous retrouvez en vous. « Mon Dieu, je veux vivre ». Expliquez-nous.
Alors, en fait, je crois que c'est Vincent qui m'a appris ça. On croit toujours qu'on apprend beaucoup de choses à nos enfants. Et c'est Vincent qui a été certainement le plus grand enseignant que j'ai eu dans ma vie. Il m'a appris à vivre. Il m'a appris à mourir. Et il m'a appris surtout que ce qui était le plus important, c'était cet amour qu'on vivait au quotidien. Dans la prière que Vincent nous a laissée, il dit « Je veux vivre, Seigneur. » Mais surtout, je veux vivre maintenant. Maintenant, bien, pour toi, Seigneur, vraiment.
Vous dites souvent, vous le redites, « Avant, je savais que Dieu m'aimait. Là, je sais et j'ai su combien je suis aimé. »
Vous savez, quand on rencontre quelqu'un dans sa vie et qu'on tombe amoureux, c'est très bien d'être amoureux. Si on ne sait pas que l'autre l'est lui-même, ça ne marche pas. La relation ne peut pas marcher. Et moi, ma relation, c'était ça. J'ai mis Dieu, mais je n'ai pas du tout compris que Dieu m'aimait. Tout a changé, puisque maintenant, je sais que Dieu m'aime. Donc, j'ai une intimité avec lui qui m'était inconnue. Et donc, du coup, ce bonheur, voilà, de le savoir présent totalement en moi, et qui transforme complètement mon existence. Je crois que ce qui est important dans l'existence, c'est l'amour qu'on donne, qu'on reçoit. Au moment de la mort de Vincent, c'est vrai que tout était, ma vie avait complètement éclaté en morceaux. Et maintenant, tout s'est reconstruit, mais uniquement dans l'amour. C'est-à-dire que c'est la seule chose qui soit importante. C'est Dieu qui me montre le chemin. Le premier commandement de Jésus, c'est de nous aimer les uns les autres, de l'aimer aussi.
Et pour terminer, Cécile Paris, vous avez sans doute eu déjà des témoignages d'autres parents qui ont perdu eux aussi un enfant.
Je suis très très étonnée parce que ce livre, je pensais d'abord que ce livre ne verrait pas le jour, mais je suis assez stupéfaite de me rendre compte qu'on me dit sans cesse, que tous les parents que je rencontre ne cessent de me dire combien ce livre les aide. J'ai beaucoup cherché, au moment de la mort de Vincent, j'ai beaucoup cherché le soutien du livre. J'ai eu des choses très belles et puis j'ai eu des choses très difficiles. Alors si mon livre peut faire partie des choses qui peuvent soutenir des parents, voilà, je pense que c'est le but. J'ai beaucoup perdu, mais j'ai tellement reçu que je ne peux pas garder ça pour moi. Et les parents que je rencontre, on a j'ai beaucoup pleuré avec d'autres parents, parce que je rencontre des parents qui sont tellement seuls parfois, qui ont vécu des situations bien plus tragiques que la mienne, parce qu'il y a beaucoup de degrés dans le fait de perdre un enfant, que justement l'accompagnement que j'ai eu et que je continue à avoir autour de la mort de Vincent, je pense que c'est un accompagnement qui a été unique. Et il y a tellement de parents qui vivent ça seuls que peut-être mon livre peut être un petit soutien. Voilà, c'est mon seul espoir, c'est ma prière.
Merci beaucoup, Cécile Paris. Merci.
Le père Pascal Montavi nous livre à présent son commentaire de l'évangile de ce cinquième dimanche de carême, la résurrection de Lazare. Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus « Seigneur, celui que tu aimes est malade ». En apprenant cela, Jésus dit « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié ».
L'évangile de ce cinquième dimanche de carême raconte la résurrection de Lazare, un ami de Jésus. Jésus se réjouit de n'avoir pas été présent le jour de la mort de Lazare, car sa résurrection servira d'enseignement pour les disciples. La résurrection de Lazare annonce en effet la résurrection de Jésus. Les apôtres comprennent ainsi que tout pouvoir a été donné à Jésus, maître de la vie et de la mort. C'est le premier enseignement de ce récit. Nous sommes tous, un jour ou l'autre, confrontés à la mort de nos proches. Mais le Seigneur nous révèle que la mort ici-bas est aussi le commencement d'une autre vie dans le royaume des cieux. Cette autre vie, avec le Christ, est dans l'éternité. Il nous est impossible de l'imaginer. Mais celui qui a créé l'univers infini nous offre, à nous ses créatures, d'entrer dans l'infini de sa présence. Jésus rencontre aussi Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare. À la première, Jésus demande un acte de foi. « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Cette question s'adresse aujourd'hui à chacun d'entre nous. Croyons-nous que Jésus est la résurrection et qu'à notre mort, nous vivrons avec lui? Il n'est pas rare que des chrétiens perçoivent leur foi simplement sous l'angle d'une règle de vie, d'une protection ou d'un système de valeurs. Mais notre foi est avant tout une foi en la résurrection de Jésus, une résurrection à laquelle nous sommes appelés, nous aussi, à participer. Saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, dit « Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux, dans le Christ Jésus. » À la question de Jésus, Marthe répond « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. » Mais lorsque Jésus demande de rouler la pierre, elle s'exclame « Mais Seigneur, il sent déjà, voilà 4 jours qu'il est là. » La foi de Marie a besoin de grandir. Jésus l'accompagne dans ce chemin, tout comme il le fait pour chacun d'entre nous, afin que nous croyions et proclamions que le Seigneur nous offre une place dans son royaume. Avec Marie, la deuxième sœur de Lazare, Jésus révèle la compassion qu'il éprouve pour les hommes. Il voit Marie pleurer, il en est bouleversé et, à son tour, pleure. À Marie, Jésus ne propose pas un long discours comme à Marthe, mais il est avec elle et pleure. Lorsque nous aussi nous pleurons, le Christ pleure avec nous. Enfin, Jésus ordonne d'enlever la pierre et prie en levant les yeux au ciel. « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. » Il s'écrie ensuite d'une voix forte « Lazare, viens dehors !» Cet ordre de Jésus, proclamé fortement, peut surprendre. Il nous montre avant tout que c'est le Seigneur qui nous libère. Lui seul est vainqueur de la mort. Sans le Christ, Lazare serait resté mort. Mais c'est la volonté de Jésus qu'il vive et sa victoire sur la mort se fait avec puissance. La fin du récit mérite aussi notre attention. Jésus dit à ceux qui l'entourent « Déliez-le et laissez-le aller ». Si ce retour à la vie se fait en raison de la volonté et de la victoire de Jésus, elle passe aussi par des médiateurs que le Seigneur envoie. ceux qui vont ôter les bandelettes et le suaire qui entoure le corps de Lazare. En ce temps de carême, nous pouvons entendre ce double appel de Jésus. D'une part, à sortir nous-mêmes des tombeaux de la peur et du péché, mais aussi à ôter les bandelettes de nos proches, véritables cordes qui les empêchent d'entrer dans la vraie vie.
Ainsi prend fin ce magazine. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va et sur Facebook à Radio Vatican en français. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve demain, où que vous soyez.